Sud Radio, Berkoff dans tous ses états, midi 13h15, André Berkoff.
Nous sommes en guerre, 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 nous sommes en guerre.
Le général en chef était hier sur le front dans un camp militaire avec ses masques, avec tout, avec ses forces de l'ordre, avec ses caméras, etc. pour dire je suis là, oui. Très bien, mais en attendant, attention, attention, nous allons parler de tout. Nous allons parler des munitions, nous allons parler de la chloroquine, nous allons parler des conflits d'intérêts, nous allons parler de tout ce qui se passe et nous allons parler aussi prison après avec Loïc Le Floch Prigent. Mais auparavant, nous allons parler non pas des déserteurs quand même, hein. Comparaison n'est pas raison, on n'est quand même pas en 14-18, ni en 39-40. Encore que, avec la ligne Maginot, il y aurait des choses à dire. Mais les verbalisations, eh oui, les déserteurs, les tirs au flanc, c'est ceux qui, justement, ne tirent pas au flanc et ne se confinent pas. La grande différence avec la guerre, c'est qu'on vous en a plus demandé au front, on le demande à des milliers de soignants qui n'ont pas encore toutes leurs munitions. Les autres, confinez-vous. Mais il y en a qui veulent pas, il y en a qui sont voilà insoumis, et puis on va les verbaliser drôlement. À tout de suite.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
Eh oui, encore une fois, je parlais des tirs au flanc, je parlais de ceux qui ne veulent pas respecter, effectivement, les verbalisations. Et on nous dit, attention, hein, faut pas rigoler, hein, confinement, c'est fini, les plages fermées, les montagnes fermées, les forêts fermées, pas question, si vous avez envie de bouger, c'est 1 kilomètre de chez vous, et seul, peut-être avec votre chien, et encore, on examinera l'attestation de votre chien. Mais en attendant, on va très loin, hein, parce que Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, a dit qu'on pouvait aller encore beaucoup plus loin que les 125 euros et autres. Écoutez-la.
Berkoff dans tous ses états. Le fait du jour.
Poète, vos papiers. Poète, vos papiers. J'ai bu du Waterman.
C'est Léo Ferré, l'immortel Léo Ferré, poète, vos papiers. Et oui, attention, pas question de sortir sans ou l'attestation de votre employeur et une attestation, une dérogation, etc. pour dire où vous allez avec l'heure, etc. Hein, on le sait. Et puis, encore une fois, je l'ai annoncé, mais effectivement, ça va beaucoup plus loin. Au début, c'était 35 euros, ensuite 135 euros. Et maintenant, eh ben, attention, Nicole Belloubet parle.
La question du confinement est une obligation sanitaire. Elle est aujourd'hui réprimée par une contravention qui est une contravention qui peut aller jusqu'à la 4e classe, 135 euros, et si elle est payée par voie forfaitaire, sinon un peu plus. Nous proposions de transformer par la loi cette amende en un délit puni d'une peine de prison, de sorte qu'il y ait là un véritable effet dissuasif et donc par ce fait même un effet préventif.
Eh oui, attention, hein, la prison, hein. Non, il faut plus rigoler, là, c'est fini, maintenant on y va. Alors on verbalise, d'ailleurs il y a 4 jours, Christophe Castaner a annoncé 91 824 infractions pour non-respect du confinement, il y a 4 jours, donc ça a dû augmenter énormément depuis. Alors les personnes sont verbalisées, et bien par exemple, 135 euros pour avoir promené un lapin en laisse à Paris, c'est vrai que, quelle idée d'aller promener un lapin en laisse, franchement. Des personnes verbalisées pour avoir acheté une baguette de pain, d'autres par exemple, pourtant on doit aller acheter des courses essentielles pour votre foyer, etc. Une seule baguette, verbalisation. Et ça on comprend, il dit... Toute personne à Salary-sur-Mer, hein, toute personne sortant de boulangerie avec une seule baguette de pain est verbalisée, soyez responsables, ils n'ont pas tort. C'est vrai que les gens qui viendraient 10 fois au marché, au supermarché ou ailleurs, à la boutique, pour prendre un truc et revenir au bout d'une heure pour prendre un autre truc, c'est pas très 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 sérieux. Et ça va loin, hein, ça va loin, parce que regardez, écoutez plutôt, des policiers ont interpellé une cliente qui avait une chose dans son caddie, écoutez.
Comptez de la semaine prochaine, si vous continuez à avoir des attitudes pareilles, vous serez verbalisé à hauteur de 135 euros à chaque sortie.
C'est pas une mauvaise attitude.
Madame, on vous demande de respecter des mesures de confinement et de faire des déplacements.
Je n'ai pas une mauvaise attitude.
Madame, regardez ce que vous achetez.
Oui, je vois bien.
Vous prévoyez une gastro ou quoi?
Non.
Bon bah alors.
Elle avait acheté du coca et dans son caddie, il n'y avait que du coca. Et qui dit coca, d'après ce policier, dit gastro. Chez gastro, il y a tout ce qu'il faut, mais enfin quand même, point trop n'en faut. Ah, c'est allé très loin, vous savez, sur la commune du Pouliguen, une jeune fille a été verbalisée de 135 euros car elle allait abreuver ses deux chevaux qui se trouvaient dans un pré à 500 mètres de chez elle. Franchement, là vous charriez un peu. Alors quoi, ces deux chevaux, ils doivent mourir de soif, elle a pas ou de faim, elle peut pas aller abreuver ses chevaux à 500 mètres de chez elle. C'est pas très très sérieux. Le fonctionnaire lui a dit, écoutez, 135 euros parce que la priorité va aux humains, pas aux animaux. Mais alors bon, très bien. Alors voilà, faites très 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 attention. Prenez toutes vos attestations, remplissez votre caddie jusqu'à la mort. Très bien. Mais attention, il est avec le ciel des verbalisations des accommodements. Par exemple, dans les banlieues. Et oui, dans les banlieues, Laurent Nunez, numéro 2 du ministère de l'Intérieur, dit que ce n'est pas une priorité que de faire respecter le confinement dans les quartiers. Le Canard Enchaîné d'hier raconte, effectivement, il dit on a un problème en banlieue, et on le sait, on le voit sur les réseaux sociaux, effectivement, les barbecues, les réunions. Alors il dit oui, c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, voyez, c'est extraordinaire. On est absolument, mais vraiment, irréductible, ferme et définitif, avec jusqu'à la prison, encore une fois, l'a annoncé Belloubet, avec ceux qui promènent leurs lapins, vont acheter un kilo de pain ou du coca. Mais le secrétaire d'État Laurent Nunez dit ce n'est pas une priorité que de faire respecter dans les quartiers les fermetures de commerce et de faire cesser les rassemblements. Alors, écoutez, là, on devrait comprendre. C'est une question de météo, c'est-à-dire qu'à tel degré de latitude et de longitude, pas question ou peu de faire des verbalisations. Oui, parce que vous comprenez, il y a le problème des grands frères, il y a les problèmes aussi de la drogue, des dealers. Et oui, les clients sont partis à l'île de Ré, ailleurs, leurs clients. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, c'est un peu embêtant. Vous voyez, alors ne parlons pas aussi du personnel policier, les pauvres qui sont malades, faute de masques et faute de, etc. Voilà, donc on fait attention dans les banlieues. D'ailleurs, une autre preuve, c'est que le préfet de Seine-Saint-Denis a demandé à la maire d'Aubervilliers de retirer son arrêté de couvre-feu. Vous voyez, c'est quand même assez hallucinant, il faut le dire, qu'il y ait comme ça ces verbalisations à géométrie variable. Et le pire, ou le mieux, on ne sait pas, c'est quand même avant-hier, à Roissy, à l'aéroport 2F de Roissy. Une foule immense, une foule de meeting. Et on a presque dit que les photos avaient paru étaient des fake news. Pas du tout. C'était les photos, ça a été authentifié. Voilà. À l'aéroport, on peut encore aujourd'hui, pas de problème, se réunir à 400, 500, etc. Confinés à 10 cm l'un de l'autre, mais il n'y a pas de problème. Alors, s'il vous plaît, essayez d'arrêter l'incohérence. Ne dites pas tout et son contraire. Et surtout, ne faites pas tout et son contraire. Essayez d'être un tout petit peu logique. Est-ce qu'il y a confinement vrai ou confinement faux? Est-ce qu'il y a confinement à géométrie variable? Il est temps quand même de trancher, mon général.
Allez, 0826-300-300, vous nous appelez pour intervenir dans Berkov dans tous ces états. On vous donne la parole à partir de 13h. Est-ce que vous êtes fait verbaliser? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Dans quelles conditions? Qu'est-ce que vous étiez sorti faire et sorti acheter? Mais venez nous raconter ça. On vous donnera la parole à partir de 13h sur Sud Radio.
Sud Radio, André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio.
Coléconil ou bien le Tofranil, j'apprécie le Valium ou bien le Librium. J'adore le Noctal ou bien le Binoctal, avec son frère délicieux l'Iménoctal, c'est le blues. Le Forizon.
Ouais, pour le moment, on n'en est pas là, hein, Philippe Châtel. C'est vrai, il citait un certain nombre de médicaments, mais aujourd'hui, le blues n'est pas du tout euphorisant. Hein. Le blues est extrêmement terrifiant, il faut le dire. Hein. On ne sait pas où on en est. Et je voudrais rappeler où on en est sur le front des médicaments. Il y a eu, on en a parlé hier, avant-hier, et tous, on en a parlé tous sur Sud Radio et ailleurs, des problèmes de Didier Raoult, de l'hexachloroquine.
Hydroxychloroquine, alors, oui.
Voilà, l'hydroxychloroquine, exactement. Merci Jean-Marie. Qu'est-ce qu'on fait de ce point de vue-là? Je veux dire, où on en est? Alors, il y a les pour et les contre, ça s'affronte, on en a parlé. Et on va en parler avec notre ministre de la Santé à nous, le docteur Bernard Cron. Bonjour Bernard Cron.
Bonjour André, je suis ça de très près, puisque tu sais que vous savez que j'écris un nouveau livre sur ce sujet-là, sur les grandes pandémies qui nous menacent.
Alors, dites-moi, avant de parler de votre livre, on en parlera longuement, parlons de ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, effectivement, et écoutez, d'abord, je voudrais vous faire écouter quelque chose à propos de la chloroquine, de l'hexachloroquine ou de la Je fais toujours l'erreur de ce que ça entraîne. Voici ce que avant-hier, ce que disait Olivier Véran pour vous montrer à quel point on est dans, je ne dirais pas l'hystérisation, mais l'intensité du débat. Voici ce qu'il répondait avant-hier au député LR Olivier Strootman sur l'usage de la chloroquine dans les EHPAD. Écoutez Olivier Véran.
J'encourage les études cliniques pour des phases plus précoces symptomatiques ou présymptomatiques dans différents territoires. Je m'entretenais avec des équipes de chercheurs ce matin encore. Nous ne voulons pas passer à côté de l'occasion de donner et d'identifier un traitement qui marcherait. Vous dire seulement, Monsieur Strootman, que les cardiologues m'alertent aussi sur le fait que l'hydroxychloroquine peut entraîner des troubles cardiaques. Aux États-Unis, il y a eu une personne aujourd'hui qui, en automédication, prenait l'hydroxychloroquine et qui a fait un arrêt cardiaque qui lui a été fatal.
Alors, juste un mot et une nuance quand même. Arrêt cardiaque a été fatal. C'est évident qu'il y a des choses à dire sur l'hydroxychloroquine, mais je voudrais rappeler Bernard Cron que cet homme, en fait, on a enquêté évidemment là-dessus, cet homme a pris du phosphate de chloroquine qui servait à nettoyer son aquarium. Alors évidemment que l'automédication est grave, mais il n'est pas mort parce qu'il a pris de la chloroquine, et il a pris parce qu'il se servait de son nettoyeur d'aquarium. Alors où en est-on maintenant sur le fond par rapport à ça, Bernard Cron?
André, c'est très précis, l'hydrochloroquine est seulement contre-indiquée chez les malades cardiaques qui ont des troubles de la conduction du ventricule, avec ce qu'appellent les cardiologues un espace QT à l'électrocardiogramme allongé, car l'hydrochloroquine et l'azithromycine peuvent entraîner dans cette seule condition des arrêts cardiaques. Pour les autres patients, qui en sont des millions et des millions à en prendre depuis des années pour le paludisme, il n'y a que quelques indications et quelques complications très bénignes par rapport à la gravité du Covid-19 chez les gens de plus de 60 ans que nous sommes.
Oui.
Alors le professeur Daniel Cohen, généticien mondialement connu, qui a cartographié le génome, qui a dit sur une des chaînes télévisées, pour l'instant, et il travaille dans une pharmacie spécialisée en Israël, pour l'instant, nous n'avons pas d'autre chose à faire. Et avec l'intelligence artificielle, on pourrait mettre en quelques jours au moins une centaine de malades, sachant qu'actuellement l'hôpital de la Pitié le prescrit, l'hôpital Pompidou le prescrit, à Montpellier on le prescrit, et certainement pas pour les formes catastrophiques car c'est trop tard pour être efficace. Il faut le faire uniquement dans les formes diagnostiquées, testées, et on manque de tests, de façon à pouvoir l'inclure dans une étude qui est lancée parallèlement par Discovery à Lyon. Et on pourrait savoir si ce que propose le professeur Raoult, qui est un des plus grands spécialistes mondiaux, est sérieux et compétent, ce que je pense intimement, et pourquoi il est mis en rancard, parce qu'il est en conflit avec l'INSERM. On peut en parler si vous voulez, André.
Oui, il faut en parler parce que on en a parlé hier, vous savez, à propos des laboratoires, parce qu'il y a évidemment, il faut le dire sans entrer dans la polémique, il faut le dire qu'il y a aujourd'hui évidemment une lutte mondiale. On voit où en est la pandémie, on en a parlé ici et ailleurs, et évidemment qui va trouver le vaccin efficace, eh bien ça va être énorme et ça se résout en financièrement en dizaines ou centaines de milliards de dollars ou d'euros de recettes, c'est clair. Ce qu'il y a d'ailleurs de ce point de vue là, c'est que comme vous dites Bernard Cron, plusieurs hôpitaux ici, mais aussi plusieurs États, les États-Unis, Bahreïn, le Pakistan, le Maroc qui a réquisitionné toute la production de Sanofi pour le Maroc. Et juste un mot, je voudrais vous citer, vous me direz ce que vous en pensez, Jean-Michel Clavery, qui était ancien directeur de recherche au CNRS, mondialement connu pour ses travaux sur les virus géants. Voici ce que dit Jean-Michel Clavery. Ce qui me scandalise, c'est que d'ici au résultat du test, on aura des milliers de morts. Mieux vaut de faux espoirs que de vrais morts. On sait que l'hydroxychloroquine est efficace in vitro pour détruire le virus. Pourquoi ne pas l'essayer sur les malades du Covid-19 ? Il n'y a pas autre chose pour le moment. Et le plus tôt possible, sans attendre que la maladie soit à un stade sévère où les poumons sont déjà fortement atteints. On se dit, comme dans la médecine de guerre, on va essayer ça. Quand les poumons sont trop abîmés, détruire le virus à ce stade est inutile. Alors Bernard Cros, ce que je ne comprends pas, c'est que et Olivier Véran et Édouard Philippe ont dit oui, la chloroquine, mais uniquement dans les stades terminaux.
Ah, ça ne sert à rien au stade terminal, c'est trop tard. Mais l'histoire est liée au conflit qui existe entre l'INSERM, et vous savez très bien qui était son directeur, et le professeur Raoult. L'INSERM n'a pas voulu donner l'accréditation du centre de recherche remarquable du professeur Raoult à Marseille, parce que, peut-être que c'est son loup, peut-être parce que il se tient indépendant par rapport aux autorités. Je voudrais simplement dire que le conseil scientifique dans lequel il était membre, et donc il est toujours membre, l'avait convoqué, mais il avait bien d'autres chats à fouetter que de se déplacer pour se rendre à cette réunion. Il soigne les malades, lui. Et ce centre comprend des généticiens, des théoriciens, des épidémiologistes, des psychologues.
Mais pas de pneumologues. Pas un seul pneumologue.
Des décisions.
Oui, et pas un seul pneumologue. Mais revenons à ça. En fait, vous, docteur Cron, vous faites partie de ceux qui disent, écoutez, il vaut mieux essayer ce qu'il y a que de ne rien faire.
Oui, mais il a été mis sous séquestre en janvier par Agnès Buzyn. Alors pourquoi l'a-t-elle mis sous séquestre ? La pharmacie centrale des hôpitaux a été pillée parce que des gens informés savaient que c'était utilisé en Chine et que ça donnait des résultats. Et actuellement... Ouais. Comme il est mis sous séquestre. Allô ?
Oui, mais je vous écoute.
Oui, et qu'il est mis sous séquestre et qu'il n'y en a pas, on ne peut pas le prescrire. Alors, bien entendu, il ne faut pas le prescrire en ville parce qu'il peut y
bien
avoir
un mort.
Et comme 80% des malades guérissent spontanément, il est évident que ça ne doit être resté. Mais avec l'intelligence artificielle, en incluant tous les essais en cours en France, on pourrait en 8 jours obtenir une réponse. Or, l'INSERM a lancé avec Discovery une étude avec des médicaments, tenez-vous bien, les antiviraux, les associations d'antiviraux, ça peut dépasser 400 euros la boîte. L'hydrochloroquine, c'est 2 euros la boîte. Donc il y a un conflit.
Alors attendez, je répète ce que vous dites. Vous dites que ça peut dépasser un nouveau, par exemple, celui qui ferait par tel ou tel labo américain puissant. Aujourd'hui, ce serait 400 euros la boîte et l'hexachloroquine, ce serait 2 euros la boîte, vous dites ?
Absolument, absolument. Ouais. Le Remdesivir de Vinel coûte 185 euros et en association, Milan le vend, c'est 400 euros. Ouais. Et ces études ont été faites en Chine, ils ont été faites avant sur le SRAS, ça n'a pas donné de résultat probant. Le seul résultat probant avec ces antiviraux, en triple association, c'est pour le sida.
Eh oui.
Donc, voilà la situation actuelle au point de vue sanitaire. Mais je voudrais rajouter un mot. J'ai l'impression que nos gouvernants, il faut savoir qu'Olivier Véran était de l'équipe Touraine avec la loi Ma Santé de protection des malades. Vous voyez comment
on en parlera plus tard.
On en parlera plus tard parce que c'est fondamental. Les choses ne bougent pas parce qu'il y a un conflit d'intérêts. Je crois qu'il y a, dans ce gouvernement qui navigue à vue dans le brouillard vers les récifs, un changement de dogme. Au départ, je pense qu'ils ont mésestimé la gravité de l'épidémie. Madame Buzyn n'a pris aucune décision quand elle a démarré le 20 décembre en Chine, alors qu'elle avait commencé le 19 novembre. Et que cette épidémie, quand elle a commencé d'exploser, on a raté la phase 1, c'est-à-dire le dépistage. C'est au début que le dépistage était utile. Maintenant,
on l'a dit. Attendez, Bernard Cron, on a beaucoup de choses à dire. On ne va pas refaire la phase 1 et la phase 2. Excusez-moi.
Alors,
il faut. Revenez à ce qui se passe aujourd'hui.
Je reviens.
C'est-à-dire. Allez-y.
Il y a un changement de dogme de ce gouvernement. Au départ, il voulait laisser l'épidémie se produire pour viser l'immunité de groupe, c'est-à-dire quand 60% de la population sera atteinte, il y aura une immunité générale. C'est une politique menée par la Hollande et que voulait mener l'Angleterre. Ils ont changé d'avis compte tenu du nombre de morts. Et comme nos hôpitaux ne sont pas préparés à avoir en réanimation des dizaines de milliers de malades, actuellement nous avons 10 à 12 000 lits de réanimation. Ils sont pleins quasiment à 100%, ou s'ils ne le sont pas, ils le seront dans 3 jours. Donc, dans un état de panique totale, on confine au maximum.
D'accord.
Donc, il faut traiter avec l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine en attendant de savoir si on a quelque chose de mieux à proposer.
Ce qui se passe. C'est très clair. Restez avec nous, Bernard Cros. Nous allons continuer en parlant des masques, bien sûr. À tout de suite.
Absolument. À quoi servent les masques? Est-ce qu'ils sont vraiment utiles, justement? On pourrait demander au gouvernement. Est-ce que nous sommes même capables de les enfiler proprement, puisque manifestement, c'était en doute? On en parle dans un instant dans Berkov, dans tous ces états sur Sud Radio. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous appeler au 0826-300-300. À tout de suite.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états.
Alors, effectivement, où en est-on? Où en est-on? Et avec les masques, on va en parler. Et puis on va parler aussi d'un autre confinement, la prison, avec Loïc Le Floch-Prigent.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Lanceur d'alerte.
Les voilà, ils sont prêts, ils sauveront le monde. Masque dans la base secrète déjà.
Ah oui, on aimerait bien. Eh oui, on aimerait bien que les masques sauvent le monde. Hein. On les attend, les masques. Alors, Bernard Cros, vous êtes resté avec nous parce que vous avez effectivement suivi de près ces problèmes. Et je voudrais juste qu'on résume assez rapidement, parce que vous savez, c'est la radio et le temps nous est toujours compté, mais on peut dire beaucoup de choses quand même. Qu'est-ce qui se passe effectivement, Bernard Cros, au niveau des masques aujourd'hui ? Pas revenir sur ce qui s'est passé avec effectivement, ou alors rapidement avec le ministère de la Santé, avec l'époque Hollande Hérault, mais qu'est-ce qui se passe exactement avec Touraine, etc. Dites-moi. Mais,
il faut savoir, André, qu'Olivier était déjà à la manœuvre, Olivier Véran, à l'époque des masques. Au départ, les masques étaient stockés nationalement et ils ont décidé, après les masques qui ont été fabriqués, plus d'un milliard en 2009, durée de péremption 5 ans, en 2014, de ne plus en fabriquer. Alors, les responsabilités ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est de sauver la vie des gens. Il faut savoir, premièrement, que le masque est utile pour quelqu'un de contaminé, pour pas contaminer ses voisins, si jamais il est en contact avec quelqu'un. Ça, c'est fondamental, c'est incontournable. Deuxièmement, il y a des centaines de soignants actuellement contaminés parce qu'il n'y a pas eu de remise en fabrication des masques FFP2. Et il y en a qui sont en réanimation, il y a 5 médecins qui sont morts. Donc on les envoie à la guerre sans armes.
Oui, c'est ça, sans munitions et sans armes, oui.
Deuxième conclusion, les responsabilités actuelles ne m'intéressent pas. Mais pourquoi, je pose des questions, pourquoi n'a-t-on pas remis en fabrication les masques FFP2 en quantité quand le ministre de la Santé est au courant de la gravité de cette pandémie, puisqu'elle a séquestré l'hydrochloroquine en janvier? Deuxième question. Troisième question, je reviens à la conclusion. Ce gouvernement devait estimer que cette épidémie devrait donner une immunité de groupe en la laissant évoluer. Ce n'est qu'une hypothèse. Sinon, c'est de l'incohérence ou de l'incapacité. Il n'y a pas 36 solutions. Ou alors, il y a des conflits d'intérêts, et je ne voudrais pas entrer dans le problème des big pharma, des médicaments chers, de la préparation du vaccin.
On l'a dit.
Mais André, sachez qu'un vaccin, il faut 6 mois pour le mettre au point, le tester, et s'il marche, et s'il est bien supporté, il faudra 1 an à 18 mois pour le généraliser dans le monde entier. Donc cette pandémie ne sera pas comme la grippe. Il n'y aura pas de saison de la pandémie, car dans l'hémisphère sud où il fait chaud actuellement, c'est en train d'exploser progressivement. Donc sans les masques, je ne vois pas comment on pourra sortir du confinement. Or actuellement, on en fabrique 6 millions par semaine.
Si on veut que les gens...
On en fabrique actuellement en France 6 millions par semaine.
Oui, et il en faut combien pour un pays comme la France?
Alors, un pays comme la France, il y a environ 5 millions de gens qui travaillent, indispensables à la bonne marche. Il leur faut un masque toutes les 4 heures, parce qu'au bout de 4 heures, ils sont inefficaces.
Oui.
Donc ça en fait déjà 10 millions.
Oui.
Par jour.
Par jour,
ajoutons, si on veut laisser les gens sortir 4 heures par jour avant de reprendre leur travail, Il leur faut un masque chacun. Ça fait encore 50 millions de masques. Donc si on veut sortir de cette crise dramatique qui va ruiner l'économie française, il faut faire travailler nuit et jour les entreprises. Il y en a encore 3 en France et une délocalisée en Tunisie pour fabriquer à tour de bras ces masques. Alors si tout le monde sort avec un masque, on ne se contamine pas. On se contamine que si quelqu'un n'a pas de masque et qui est malade. Parce qu'à ce moment-là, le masque chirurgical suffit si son vis-à-vis a également un masque chirurgical.
Chirurgical.
Voilà.
Donc
la
vous seriez. Oui, alors justement, Bernard Cron, juste 2 questions. Vous seriez idéalement, parce qu'on peut faire travailler aussi, pas seulement en France, mais des usines, justement, il y en a en Tunisie, pourrait y en avoir en Algérie, au Maroc, ou ailleurs, ou en Chine, puisque vous savez que Lufthansa, l'Allemagne, a envoyé des dizaines d'avions pour aller récupérer des millions de masques en Chine, ou en tout cas des dizaines ou des centaines de milliers en ce moment. Si la question que je vous pose, est-ce qu'on peut dire ou pas, si aujourd'hui il y avait suffisamment de masques, est-ce qu'on pourrait avoir un confinement au moins moindre ou peut-être inexistant? Et deuxième question, quid des tests de dépistage pour savoir enfin, à part quelques personnes, qui est malade ou qui est contaminé ou pas?
C'est trop tard, André, pour les tests de dépistage, car le nombre de contaminés doit être 10 à 20 fois supérieur aux nombres qui sont cités par le directeur de la santé, Salomon, qui était déjà à la manœuvre avec Touraine. Donc, il est parfaitement informé de la situation. Le problème, je vous dis, me semble dogmatique. Est-ce qu'il laisse l'épidémie se développer suffisamment sans que nos services de réanimation soient surchargés, parce qu'on manque de respirateurs et on manque de réanimation et de personnel compétent? Je voudrais vous dire, par exemple, qu'un malade qui est intubé, ventilé en réanimation, pour avoir une mortalité 2 fois moindre, il faut le retourner avec 5 personnes toutes les 12 heures. On n'a pas le personnel. Nos hôpitaux sont impréparés, on l'a assez dit longtemps. Donc on ne peut pas sortir de cette situation tant que l'État n'aura pas pris des décisions fortes.
Merci Bernard Cron. Juste écoutez ce que disait, là, à propos des masques, on en parlait, un médecin de la Réunion qui a reçu, voyez, parmi les milliers de masques qu'attendent tous les soignants libéraux, sauf que voici ce qu'il dit des masques qu'ils ont reçus. Écoutez.
Bonjour, docteur Mamias à l'appareil. Je viens de recevoir vos merveilleux masques FFP2 qui, normalement, datent de Madame Bachelot du temps de la grippe. Comme vous pouvez le constater, ils sont moisis, c'est merveilleux. Donc on vous rappelle qu'on travaille dans une ambiance normalement parfaitement stérile. Ça, c'est des horreurs. Donc, si je voulais paraphraser Coluche, c'est caca dehors et caca dedans. Donc c'est pas top. Pour mettre ça sur le nez, madame, excusez-moi, je vais pas pouvoir. Donc je me permets de vous signaler que quand même, on est médecin, on n'est pas des animaux et on met pas des masques pour rien. Merci, au revoir.
Vous voyez, Bernard Cron, où on en est, des masques moisis, vous l'avez dit, effectivement, il les a reçus, ça dure 4 ans, et voilà ce qui se passe, quoi.
Tout à fait, on n'a pas de masque, l'État nous a dit, il n'y a pas besoin de masque, puisqu'on n'en a pas, donc on n'a pas besoin, on n'en a pas, on n'a que des masques périmés, alors on les retrouve dans des greniers, on les retrouve dans des caves, on a créé les ARS qui auraient pu stocker les masques et dire, nos stocks sont épuisés, ils sont périmés, il faut en refabriquer et faire remonter la
mais ça, c'est autre chose.
Ouais. Non, ça a été distribué à droite et à gauche, et puis on a dit, on ne va pas les renouveler. Alors là, je vous laisse retrouver les responsabilités. Vous avez la chronologie parfaite. 2009, Bachelot, 1,25 milliard de masques. Elle a été beaucoup critiquée et je le regrette profondément parce que c'était pas une pandémie grave. Donc on a mésestimé la prochaine pandémie. Au lieu de se préparer à une pandémie grave, eh bien, il y a une totale impréparation. Vous avez la chronologie des choses. On en reparlera, André, si vous voulez.
On en reparlera, bien sûr.
C'est là le nœud de la sortie. Sinon, l'économie française va s'écrouler. Et on va avoir, dans la semaine qui vient, une explosion du nombre de morts parce que les réanimations ne pourront pas faire face.
Alors, espérons que ça restera.
Très important.
Ok. Merci Bernard, merci. On est arrivé au stade. On le fera et j'espère qu'il ne sera pas trop tard. J'espère quand même qu'on pourra arrêter tout cela, que ce soit au niveau du médicament et arrêtons ces conflits d'intérêts et ces polémiques et ces disparités stupides et parlons et nous allons parler aujourd'hui tout de suite d'un autre confinement d'une toute autre nature. À tout de suite.
Et n'oubliez pas de nous appeler 0826 300 300 dans 20 minutes. On vous donne la parole sur Sud Radio.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états. le face-à-face.
Et là...
Eh oui, les portes du pénitencier. Et c'est Loïc Le Floch-Prigent qui a écrit, qui vient d'écrire « Repenser la prison » chez aux éditions Michelon. Bonjour Loïc Le Floch-Prigent.
Bonjour.
Bonjour. Alors dites-moi, vous faites, alors c'est, on est évidemment, on n'est pas dans le coronavirus et on n'est pas dans la pandémie actuelle. Bien que je vous ferai écouter quand même ce avant qu'on commence notre discussion, voici ce qu'a dit Nicole Belloubet à propos des prisons.
Écoutez. Sur le taux de surpopulation, notamment dans les maisons d'arrêt, est surveillé de manière extrêmement attentive. Je voudrais dire à cet égard que la diminution de l'activité juridictionnelle entraîne de manière mécanique une diminution des incarcérations actuellement. Par ailleurs, j'ai donné des instructions au parquet pour qu'ils mettent en œuvre le plus possible les mesures d'aménagement des peines. Et les juges d'application des peines font preuve à cet égard d'une véritable mobilisation. Et actuellement, nous constatons qu'il y a déjà 1600 détenus en moins dans nos établissements pénitentiaires. Dans le cadre de la loi d'urgence que vous évoquez, je souhaite également faire davantage encore, puisque les détenus qui seront en fin de peine, à 2 mois de leur fin de peine, pourront effectivement terminer cette peine en étant confinés à domicile. Ceux qui seront à 6 mois de leur fin de peine pourront voir cette peine transformée en un travail d'intérêt général. Mais ça ne concernera évidemment pas les terroristes, les auteurs de violences intrafamiliales, etc.
Alors Loïc Le Floch-Prigent, je rappelle que vous avez été chef d'entreprise industriel, vous avez dirigé la SNCF, Elf Total, hein, et plusieurs ouvrages vous avez écrits, d'ailleurs vous-même vous avez été en prison pour des motifs qui n'ont rien à voir avec le pénal, mais donc vous parlez d'expérience. Ce que dit Nicole Belloubet, pour juste dans l'actualité, est-ce que ça vous paraît aller dans le bon sens ou pas?
Écoutez, la situation actuelle est dramatique, c'est-à-dire qu'on a 71 000 personnes en prison au départ, il y a un mois et demi, avant le coronavirus, et on a 56 000 places. Et par conséquent, dans les cellules où on doit être tout seul, il y a la plupart du temps 2 personnes et souvent un matelas par terre, c'est-à-dire il y a 1500 matelas par terre dans les prisons françaises aujourd'hui, ce qui est scandaleux et inhumain. Donc il y a un problème. Alors le problème est de savoir, et c'est la raison pour laquelle j'ai refait ce livre sur la prison, si tous les gens qui sont là en prison sont vraiment un péril pour la population. C'est-à-dire que je comprends qu'on neutralise les criminels et qu'on essaie d'éviter qu'ils repassent à l'acte, c'est clair. Mais est-ce que les gens qui sont actuellement en prison sont ces criminels dont on nous abat les oreilles? La réponse d'un praticien, et en l'occurrence de quelqu'un qui a passé 2 ans et demi de prison et qui est moi, c'est-à-dire que la plupart des gens qui sont en prison ne le sont pas pour des raisons de neutralisation, ils y sont pour des raisons de punition, et cette punition n'est pas quelque chose d'intelligent puisqu'il y a récidive derrière. Donc ce n'est pas ça le sujet. C'est-à-dire qu'il faut changer de paradigme, il faut considérer qu'effectivement il y a un problème de neutralisation de criminels, et on s'aperçoit que cette neutralisation n'est pas évidente dans le cas des djihadistes dont on dit qu'ils vont sortir au bout de quelques années. Donc on voit bien que la population a envie qu'on neutralise les criminels potentiels, mais est-ce que...
C'est normal.
Absolument, c'est tout à fait normal. Mais est-ce que les 71 000 sont des criminels potentiels? La réponse est non. La réponse est l'ordre de grandeur des gens qui sont dangereux, c'est entre 5 000 et 15 000. C'est ça l'ordre de grandeur, ce n'est pas 71 000. Et donc,
alors on va en parler, gens... on va...
Voilà,
oui,
c'est ça le
on
sujet.
Va en parler.
C'est le sujet de mon livre.
Oui, non, c'est tout à fait le sujet de votre livre et on va en discuter après ceci. À tout de suite, Loïc Le Floch-Prigent, on reste ensemble et on va continuer après cette petite pause.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le face-à-face.
Oui, Loïc Lefroc-Prigent, en tout cas, vous avez le courage d'affronter, de présenter une thèse qui n'est évidemment pas très populaire. Et je dis moi-même, quelque part, quand je...
C'est le moins qu'on puisse dire. Mais simplement, je vous ferai remarquer que le procureur Melun, antiterroriste, lorsqu'il part à la Cour de cassation, il dit la même chose que moi. Il dit, c'est embêtant, il y a des gens qui ont été condamnés à 5 ans, qui vont faire 2 ans et demi, qui vont ressortir, qui sont dangereux. Et je dis, mais c'est la société nous demande d'éviter que des gens dangereux réapparaissent. C'est ça qu'elle nous demande.
Ah oui, mais alors on peut vous répondre.
Qu'est-ce qu'on fait pour que ça n'arrive pas?
Mais non, mais attendez, Loïc Lefroc-Prigent, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, il faut quand même dire les choses aussi. Il y a des millions et des dizaines de millions de gens qui vaquent à leurs occupations, qui ne font rien de mal, qui essayent de faire leur vie. Et quelqu'un qui arrive et qui viole, qui vole, qui assassine, qui fait, qui égorge.
Absolument.
Je vous rappelle, par exemple, à Saint-Étienne-du-Rouvray.
Entre 5 000 et 15 000 personnes, ça.
Attendez, oui, ça, vous dites ça, vous n'en savez rien, ça c'est au doigt mouillé, pardon
si.
Loïc.
Ah bah si.
Mais non. Ah bah si. Moi je ne dis pas, attendez, je ne dis pas que tout. Non, excusez-moi, écoutez-moi, parce que si c'est important.
Sûr,
ça ne sert à rien, si vous voulez, non mais Loïc, ça ne sert à rien de dire ça. À partir du moment, il ne s'agit pas de laisser tout le monde en prison jusqu'à la fin de leur vie. Bien sûr qu'il y a des peines et il y a des choses à aménager. Le vrai problème, c'est quand il y a, vous savez très bien, le nombre de terroristes qui étaient fichés S. Vous savez très bien que, par exemple, la personne qui a égorgé le curé Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray en pleine église avait un bracelet électronique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça le problème.
C'est ça
la question qu'on se pose. Oui.
Et alors,
qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça?
Le problème fondamental, c'est de considérer que les gens qu'il faut neutraliser doivent être neutralisés et on doit s'en occuper. Or, si jamais on a 71 000 personnes, dont des gens qui n'ont rien à faire là-dedans, qui sont des cas psychiatriques, qui sont des addicts à la drogue bénin, etc.
Si jamais
on a tous ces gens-là qui sont en prison, on ne s'occupe pas valablement des gens qui sont dangereux et qui sont à neutraliser. Mmh. C'est ça la question.
Je comprends.
Et nous n'avons pas les moyens en termes d'argent aujourd'hui pour nous occuper valablement de 71 000 personnes qui sont en prison. Nous n'avons pas cet argent. Nous pouvons essayer de le prendre à quelqu'un, à l'éducation, à la police, à ce que vous voulez, mais nous ne l'avons pas. Le fait est que depuis des années, on dit on va trouver de l'argent, Non, on n'augmente pas l'argent qui va à la prison et pendant le même temps, on ne fait pas le travail qu'il faut pour neutraliser les gens dangereux. Et on a un substitut d'hôpital psychiatrique, un substitut de centre de désintoxication qui n'existe pas d'ailleurs, puisque à l'heure actuelle, on sait que l'absence de parloir conduit à la difficulté pour les drogués à l'intérieur de recevoir leur drogue, et que par conséquent, ça crée un trouble certain à l'intérieur des prisons en ce moment en France. On voit bien.
Il y a des points du parloir.
C'est d'amener de la drogue aux gens à l'intérieur pour qu'ils se calment.
Oui. Quand on n'amène pas des couteaux en céramique, ça c'est autre chose. Oui.
Voilà. Mais c'est ça le problème. Il faut essayer de s'occuper des gens qu'il faut neutraliser. Et c'est ça que disait le procureur Molins, et c'est ça que je dis aussi. J'ai eu le sentiment qu'au contraire, il y avait une fenêtre où les gens commençaient à ouvrir le couvercle réel et en disant, oui, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi a-t-on créé des unités psychiatriques de prison? C'est parce qu'on a fermé des lits psychiatriques d'hôpital. Et on a de plus en plus de cas psychiatriques à l'intérieur des prisons. Est-ce que c'est vraiment leur place en prison ou pas? Et c'est une des questions que je pose. C'est une des questions fondamentales que je pose.
Le problème, juste un mot, là je parle au chef d'entreprise que vous êtes aussi, l'argent, vous savez très très bien, quand on voit les fraudes de 30 milliards à la sécurité sociale et aux fraudes sociales, l'argent il existe, simplement il faut encore le contrôler. Ça c'est un autre problème. Mais moi la question que je vais vous poser, que faire? Vous avez raison sur le fond, évidemment qu'il ne s'agit pas de mettre en prison et de garder en prison tout le monde, et on ne va pas mettre sur le même plan la personne qui a volé 3 trucs ridicules et qui est en prison avec le criminel patenté, avec
qui a conduit sans permis. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des gens qui ont fait la conduite sans permis, qui ont 18 ans et qui sont en prison. Est-ce que c'est vraiment la peine de les mettre en prison? C'est ça la question fondamentale et la question que l'ensemble des pays développés se posent aujourd'hui. C'est dans les pays scandinaves, c'est 17 États sur 50 aux États-Unis, c'est en Écosse, c'est partout. Tout le monde se pose la question, est-ce qu'il est nécessaire de mettre en prison des gens dont le seul élément clé va être la récidive, parce que l'apprentissage du mal, alors qu'au départ, ils sont très très loin de ça.
Oui, c'est ce que vous dites. La prison est une fabrique de récidivistes et une fabrique de criminels.
Quoi, absolument, mais c'est la réalité. C'est la réalité. C'est comme ça. Mmh. Alors, est-ce qu'on affronte la réalité ? Elle est désagréable, cette réalité, parce qu'on a pris l'habitude de la prison. On dit, ah, voilà, je mets en prison. Et puis, tout le monde est content. On a mis en prison et on s'est débarrassé d'un problème. Ouais. Non. Le problème commence dès qu'on a mis quelqu'un en prison, au contraire. Et c'est ça qu'il faut regarder.
Oui, mais le paradoxe terrible et lequel personne n'en a encore résolu, c'est que si vous ne mettez pas aussi en prison un certain nombre de gens, eh ben, ils vont continuer et ils y vont de plus. Vous le savez très, très bien. Je veux dire, ça fait partie, hélas, c'est pas une nouvelle histoire. C'est une discussion qu'on a depuis je dirais presque des millénaires. Quoi faire? Si vous voulez, encore une fois, moi, vous savez, c'était même à partir de la peine de mort. Mais je dis ça. Il disait, je suis complètement, disait Alphonse Karr, contre la peine de mort, mais que messieurs les assassins commencent. Pour quelqu'un qui n'a rien demandé et qui a reçu une chose terrible et qui n'a rien demandé parce qu'il était là au mauvais moment, au mauvais endroit, ben on peut comprendre que les gens se disent « Attendez, protégez-nous un tout petit peu quoi, de cela. »
Qu'est-ce qu'on fait ? Et je crois qu'il faut essayer de reprendre la question de la protection de la population. Et si l'on regarde le problème de la protection de la population, on dit bien il y a des gens qui ne doivent pas ressortir tant qu'il n'y a pas de considération de non-récidive. Et ça veut dire qu'il faut s'en occuper de façon beaucoup plus importante que de rentrer et de fermer la clé et de les mettre pendant 20 heures par jour dans une cellule. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'on est capable, sur un certain nombre d'individus, de considérer qu'une action véritable d'insertion est possible. Si c'est le cas, à ce moment-là, donnons-nous les moyens de cette action de réinsertion, mais ne faisons pas du problème de criminel que vous indiquez et sur lequel, bien sûr, auquel bien sûr j'adhère, le problème de criminel, le centre réel des 71 000 personnes aujourd'hui. Ce n'est pas vrai. Oui. Le nombre de gens qui sont des criminels et dont, vous, à juste titre, vous êtes en train de dénoncer la conduite éventuelle future, ces gens-là sont minoritaires à l'intérieur du système carcéral.
Des prisons.
C'est ce fait qu'ils soient minoritaires qui a été observé par les Américains, par les Scandinaves, par les Irlandais, par les Écossais. Et on dit, ben, à ce moment-là, faisons autrement avec des gens qui ont dévié et faisons en sorte que ces gens soient surveillés de façon régulière, de façon à ce qu'ils ne soient plus déviés. Mais si jamais on les a enlevés du milieu social et qu'ils ne peuvent jamais se réintégrer, ce n'est pas la peine de les avoir enlevés du milieu social. Il fallait les mettre à la lisière en étant surveillés et contrôlés. C'est-à-dire que remplacer
attendez, Loïc Le Fleur-Prigent. C'est très joli de dire, ça, mais ça, on revient à la question des moyens. Ce que vous dites, excusez-moi, c'est ça, c'est que s'il n'y a pas de moyens, votre solution est aussi utopique et même plus utopique que le reste. Parce que vous dites, il faut les surveiller à la lisière, mais il faut des personnels pour le surveiller à la lisière. Où il est le personnel?
Et on le paye comment? On a 5000 conseillers d'insertion et de probation. Il faut mieux augmenter le nombre de conseillers d'insertion et de probation qu'augmenter le nombre de gardiens qui ferment et ouvrent les portes. C'est ça ce que font les États dont je parle, c'est-à-dire les 17 États sur 50 aux États-Unis et les États scandinaves, l'Irlande et l'Écosse. Ils sont en train de transformer ces fonctionnaires qui font un travail qui n'est pas très réconfortant, qui est d'ouvrir et de fermer les portes, en train de les transformer et de dire non, ce qui est important, c'est l'insertion et la probation, et c'est la surveillance des gens pour savoir s'ils sont susceptibles de rentrer dans la société.
Voilà. Et le problème, Oui, mais exactement. Mais le sujet, oui, à condition de ne pas considérer qu'il n'y a que 90% d'innocents qui ne sont en prison que par hasard. Et voilà. Et sinon, on va retomber dans le même problème, si vous voulez. Et deuxièmement,
vous savez qu'en Amérique. Moi, ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que j'ai pris le problème du procureur Molins, c'est d'observer qu'aujourd'hui, sur le barème des peines, les djihadistes qui font craindre le pire à l'ensemble de la société française, avec ces barèmes, ont une peine relativement bénigne et sortent très rapidement. Et donc je dis, oui, c'est bien le sujet que doit traiter la société, c'est en priorité celui-là. Comment peut-il le traiter? Il peut le traiter en y mettant les moyens. Si jamais il met les moyens pour garder des gens qui n'ont rien à faire en prison, il se trompe de moyens. Donc je dis, lorsque vous êtes industriel, et je suis industriel, vous avez fait raison de le souligner, lorsque je fais quelque chose qui ne marche pas, on me dit, faites autrement. Et là, ça ne marche pas, et on dit, on continue pareil. Je dis, c'est complètement idiot. C'est pas comme ça que ça peut fonctionner. Hein, vous voyez,
c'est vrai.
Vous voyez mon propos.
Hein, tout à fait. Ça, le problème, c'est qu'il faut des... Oui, il faut des moyens partout. Alors, il ne faut pas négliger des moyens d'un côté et les garder de l'autre. Loïc Lefleur-Prigent, restez avec nous. C'est très intéressant. Votre point de vue est tout à fait intéressant. On reste avec nous. On va recevoir les auditeurs du Sud Radio. À tout de suite.
Et je rappelle que l'ouvrage de Loïc Lefleur-Prigent se nomme « Repenser la prison ». Vous pouvez vous le procurer, chers amis qui écoutez Sud Radio, aux éditions Michalon. Berkoff reste dans tous ses états. On se retrouve juste après les informations sur Sud Radio en compagnie de son invité Loïc Lefleur-Prigent. Vous nous appelez d'ores et déjà, 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
Oui, nous sommes là pour parler effectivement de ce confinement très 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 fort qu'est la prison, du confinement de millions de Français, de milliards de personnes aujourd'hui à travers le monde, de la chloroquine, des conflits d'intérêts, des polémiques autour du coronavirus qui hélas n'a pas fini de faire des ravages, et nous vous attendons, auditeurs du Sud Radio.
Et je rappelle que nous sommes toujours en compagnie de l'invité d'André Berkoff, Loïc Lefleur-Prigent, qui nous présente son livre « Repenser la prison », c'est publié aux éditions Michalon, 0826 300 300, direct Direction l'Essonne, on part à Étampes, on retrouve Pierre qui nous appelle sur Sud Radio.
Oui, bonjour Pierre.
Bonjour à vous. Bonjour. Je vais essayer de faire rapidement parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui attendent. Et c'est vrai que c'est pas facile de parler au téléphone en dialoguant. Donc en fait, je voulais remettre les points sur les i. On n'est pas des héros, nous les routiers, les infirmiers, etc. On est obligé de travailler. Les héros, c'était des soldats de 14 ou ceux de 40 qui essayaient de se battre contre le gramment. Eux, c'est des héros. Nous, on n'est pas des héros, on est obligé de travailler. On est prisonnier d'un système, il faut payer notre crédit et tout. On n'est pas du tout des héros. Et deuxièmement, je voulais dire que... Alors, j'ai une pensée pour tous ceux qui sont malades, les familles qui souffrent et tout. Et mes propos ne tiennent pas sur les souffrances des gens. Je voulais juste dire que la crise était une bonne chose parce qu'elle nous démontrait, et vous allez dire si vous êtes d'accord avec moi, elle nous démontre que la mondialisation actuelle est nocive pour l'humanité. Parce que qu'elle soit sociale, fiscale, etc., on voit qu'on est devenu un pays tellement fragile. Nos entreprises sont parties à l'étranger. On dépend de la Chine pour avoir des masques et du gel. On dépend de l'Allemagne pour avoir
des médicaments.
Et des médocs, parce que je vous signale, et je ne sais pas si vos auditeurs le savent, mais on ne fabrique pas de paracétamol.
Les produits on l'a beaucoup dit, Pierre. Absolument.
Et après, j'avais un message à notre président préféré. Je vous conseille de virer tout votre entourage qui sont, on va dire, des bons à rien et qui vous décrédibilisent. Et moi, je veux bien que vous m'embauchiez pour 50 kilos euros par an. Et je vous assure qu'avec moi, vous auriez plus de... Mais embauchez-moi, vous allez voir. J'ai pas beaucoup de diplômes, j'ai qu'un bac pro et je suis routier. Mais avec les conneries qu'on entend depuis un mois ou deux mois, vous les payez combien ces gens-là? Moi, prenez-moi pour 50 000 euros par an ou 40 000. Allez, je viens dans votre équipe, il n'y a pas de souci.
Eh bien, écoutez, voilà une offre d'emploi. On va transmettre non pas à Pôle emploi, mais directement à l'Élysée, Pierre. C'est promis.
Merci à vous, Pierre, de nous avoir appelé des tempes. Prenez soin de vous et puis bonne route, surtout dans l'Essonne ou ailleurs. 0-826-300-300. On remonte un petit peu, on va à Paris. On trouve Jean-Claude qui nous appelle sur Sud Radio.
Oui, bonjour Jean-Claude.
Oui, bonjour. Ben, je vous appelle pour la raison suivante. Vous époumonez à dire on manque de masques, on manque de masques. Ça fait plus d'une semaine que je suis en relation avec la Tunisie, parce que normalement, ils fabriquent pour mon fils, qui est une marque de vêtements, mais évidemment, tout ça est arrêté. Il y a des capacités de production libérées, des gens qui ont fabriqué des masques, qui en fabriquent encore, et donc je me heurte à l'impossibilité de rentrer en contact avec qui que ce soit qui puisse me passer une commande. Moi, je prends rien dans cette affaire.
Donc, attendez, juste, c'est très intéressant ce que vous dites. Pardon. Qu'est-ce que vous avez essayé concrètement? Qu'est-ce que vous avez essayé de faire et pourquoi personne ne vous répond?
J'ai tout essayé. J'ai même le mail personnel de Salomon. Hein. J'ai tout essayé. Envoyé un mail au cabinet de Véran. Rien, je n'ai aucune réponse nulle part. Il y a des tas de gens qui me disent, on va vous rappeler, HPHP, l'hôpital de Paris, on va vous rappeler. Il ne se passe rien, on me dit, il faut qu'on voit, ainsi de suite. Alors, je vais vous expliquer pourquoi la France, actuellement, fait fausse route. Je suis même en contact avec Boyer, qui est le plus gros fabricant de masques en France. Vous pourrez regarder dans Facebook, il y a un article publié par Marianne, où il explique qu'il a relancé toutes ses chaînes et il est bloqué maintenant, faute de commandes de l'État. Pourquoi? Les commandes de l'État se sont arrêtées parce qu'ils ont fait un appel d'offres et les Chinois sont moins chers. Oui, non, mais...
Ah, c'est très joli,
vous êtes bien. La police...
Vous voulez dire l'État a fait un appel d'offres aux Chinois, donc on attend les envois de Chinois et les firmes françaises ou tunisiennes ou autres, c'est pas la peine, quoi. C'est ça,
On est à côté... Le prix n'a aucune importance actuellement. De toute façon, les gens sont prêts à travailler au prix le plus bas. Le prix n'a aucune importance. Il faut se libérer de toute la bande de technocrates qui utilisent encore la technique des appels d'offres dans une période d'urgence. Vous savez que pour la police, ils viennent de passer un appel d'offres qui sera ouvert le 7 avril. Non, mais ils marchent sur quelle planète ils sont? Alors moi, je vous demande, parce que vous avez quand même un réseau de relations que je n'ai pas, d'essayer de me trouver quelqu'un d'importance, d'un bon niveau, qui puisse prendre contact avec moi, que je lui explique. Attendez, moi j'ai dirigé les logistiques avec 1000 personnes, ainsi de suite. Je lui explique pourquoi ils sont complètement à côté de la plaque. Et que quand Véran dit de bonne foi, je crois qu'il dit de bonne foi, quand il dit on a commandé, il a commandé, mais il a commandé rien du tout. Parce qu'il est dans le cadre d'appel d'offres, donc il y a tous les délais de fabrication, ainsi de suite, il n'en sortira pas. Donc en attendant, quand il dit les gens vont être livrés mercredi prochain, c'est faux. C'est faux. Ils croient qu'ils vont l'être, mais c'est faux. Alors d'autre part, ils ont cru qu'il était intelligent de déclarer, on fait une réquisition. Comme ça, on contrôle tout, on récupère, on met au travail des gens. Et bien justement, ça a tout bloqué. Parce qu'avant, vous pouviez vous adresser vous adresser au préfet du coin, qui vous pouvez vous passer une commande et vous a délivré. Maintenant même pas, il faut rentrer dans le gros processus général qui est complètement embouteillé.
Donc ça paralyse la production. Vous voulez dire qu'on ne peut pardon, excusez-moi bien, on ne peut plus faire ça localement ou régionalement. Il faut faire ça en remontant à l'État, en remontant à la centrale.
Parce que c'est eux qui doivent redistribuer en fonction de priorité. Eh bien forcément, c'est ingérable. Parce qu'il est gentil, Véran, mais il n'a jamais que managé un clavier d'ordinateur. Et avant d'être ministre, il était médecin, il est député.
Il était neurologue.
Oui, ben oui, mais donc, je crois qu'il est de bonne foi, mais alors il est complètement sous l'eau du fait qu'il y a autour de lui.
Si je peux intervenir dans le débat.
À appliquer les procédures européennes, voilà.
Loïc Le Floch-Prigent.
Oui, si je peux intervenir dans le débat. Chacun son métier,
allez-y.
C'est-à-dire que les industriels, c'est leur métier de produire. Donc si jamais on ne leur permet pas de produire, eh bien ils ne produisent pas. Or, depuis 2 mois, ils sont dans la possibilité de produire, mais à chaque fois qu'ils s'adressent à quelqu'un, ils s'adressent à des gens qui ne sont pas compétent pour commander le matériel et voilà. Le faire venir et faire la logistique. Donc chacun son métier. Il se trouve que on dit ce que les médecins disent, et si jamais on demande aux industriels de faire quelque chose, ils le font, et ils le font très bien. On leur a pas demandé.
Mais attendez, moi je vous écoute tous les deux, mais attendez, c'est hallucinant. On est aujourd'hui, il y a des morts tous les jours. Oui. Je veux dire, comment ces gens-là ne sont pas fichus, où ils ont deux neurones, est-ce qu'il leur reste un arrière, un neurone qui se bat avec l'arrière l'avant-dernier, est-ce qu'ils sont pas foutus de se mettre ensemble?
Ce ne sont pas les industriels, et ils n'ont pas l'industriel auprès d'eux. Ils n'ont pas l'industriel auprès d'eux, ils ne savent pas ce que c'est que l'industrie, ils ne savent pas ce que c'est que la logistique. Et par conséquent, ils sont perdus. Et donc, ils trimballent maintenant les malades d'un endroit à un autre par la SNCF, qu'ils n'ont pas, etc. Alors que fondamentalement, c'est une question d'organisation et de logistique. Et il y a des gens pour ça. Et les gens qui sont là pour ça sont des gens qui sont des industriels. Les industriels, c'est leur métier de base. Et le métier de base d'un médecin n'est pas d'être logisticien ou industriel. On a chien. C'est quand même évident. Évident qu'aujourd'hui, il faut essayer de prendre des gens dont c'est le métier pour faire des choses intelligentes de logistique et d'industrie. Voilà. Et faire des masques comme faire des respirateurs, c'est un problème industriel. Mettre des respirateurs auprès des lits, c'est un problème d'industriel. Voilà. Et où sont les industriels? On leur dit, mais non, allez, les Chinois, c'est bien meilleur, on va commander un avion qui va partir en Chine, qui va amener les trucs, etc. Bah, tout ça est complètement débile. Hein, bon. Est-ce que vous savez qu'il y avait une petite usine, il y avait une petite usine dans les Côtes d'Armor, près de chez moi, je reviens, hein, qui avait 280 personnes qui faisaient des masques jusqu'en 2018. Elle a émigré en Tunisie. C'est une des usines dont parle ce monsieur. Et ces usines sont encore disponibles pour faire des masques. Les matériels sont là. Tout ça est complètement... Alors, on revient, si vous voulez, à un repos. C'est-à-dire qu'il y a des gens dont c'est le métier. Eh bien, utilisons les gens dont c'est le métier. Et il y a des métiers
Encore faut-il qu'il y ait des politiques... Et encore faut-il qu'il y ait non seulement des pilotes dans l'avion, que des politiques qui sachent ce que c'est de faire la politique. Je trouve, moi, personnellement, absolument hallucinant qu'à chaque fois qu'il parle, il se réfugie derrière le comité scientifique. Mais c'est pas les scientifiques.
Le comité scientifique, mais c'est 10 personnes dont on n'a rien à faire. Le problème de fond, c'est que si jamais on avait des masques pour tout le monde, on aurait réussi depuis très longtemps à juguler cette affaire. On le sait qu'il fallait des masques pour tout le monde. Eh bien, des masques pour tout le monde, ça se fait avec une économie de guerre, avec des industriels, et on leur dit, messieurs, vous faites 1 million de masques par jour. Et il faut 1 million de masques par jour. C'est tout.
Parce que c'est là. Merci.
Voilà. Excusez-moi. Je voulais ajouter à ce que me dit monsieur le Floch Prigent, qui a une expérience concrète et sait de quoi il parle. Simplement, moi, ce que je demande, est-ce que vous pouvez me servir de relais pour me trouver un interlocuteur public d'un bon niveau avec lequel on puisse démarrer une action?
Alors, je vais vous dire, c'est très très simple. Voilà.
On va regarder ça, Jean-Claude. On garde votre numéro, de toute façon.
Jean-Marie, il faudrait qu'on prenne le numéro et qu'on le fasse.
Ce sera fait. Ce sera fait. Absolument. On va s'en occuper avec l'équipe de Sud Radio. On va voir ce qu'on pourra faire avec vous. Merci à vous de nous avoir appelé au 0826 300 300, direction Draguignan. On retrouve Jean-Paul qui nous appelle sur Sud Radio.
Oui, bonjour Jean-Paul.
Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, pour une fois, qui n'est pas coutume, je me fais un petit peu l'avocat de notre président. J'ai écouté hier, on peut apprécier diversement les propos, mais je pense que maintenant, il est pieds et poings liés avec tout cet entourage d'incompétents qu'il a autour de lui. Il est très certainement très mal conseillé, et je pense qu'il ne sait plus comment agir. Et le discours qu'il nous a montré hier et la posture qu'il nous a montré, c'est pour essayer de garder à minima un petit peu de cohésion, parce que sinon, je ne sais pas comment ce pays, petit à petit, va tourner. Et du moins, les choses vont tourner. Je rejoins complètement les auditeurs précédents. On s'aperçoit que notre président n'est pas un chef, il n'est pas un patron. Il se réfère toujours à des tas de personnes au lieu d'avoir le courage de prendre lui-même des décisions pour montrer qu'il est le patron. Et même s'il faisait des erreurs, je pense que les gens le soutiendrait davantage. Voilà, à force de se retrancher derrière tout le temps une tas de personnalités plus bêtes les unes que les autres parfois dans leur discours, il perd toute crédibilité. Et c'est en ça que c'est dommage. C'est pour ça que je vous dis hier, je crois qu'il a essayé de reprendre un petit peu la main. Il n'y a pas réussi, mais il a essayé ça. Voilà,
oui, mais vous savez, que je voulais dire. Non, mais vous posez le vrai problème, et je crois que tout le monde sera d'accord. Un vrai chef, c'est d'abord s'entourer. Un chef, il n'est pas seul. Un chef, Pierre de Villiers le disait très bien, l'ancien chef d'état-major des armées françaises. Et il n'y a pas que lui qui disait ça. Vous savez, un chef, c'est, il est aussi... dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu emploies autour de toi et je te dirai qui tu es. Je crois que le très, très important, là, on a un vrai problème, je dis, et c'est qu'on a un problème de personnalité de quelqu'un qui, justement, ne sait pas prendre des décisions. Mais vous savez, on n'a pas entendu le coronavirus, pardon, les grands débats, la réforme des retraites. Et là, on fait des débats. Mais c'est pas le problème. Un chef, c'était, il le disait de manière caricaturale, Chirac, un chef, c'est fait pour cheffer. C'est fait pour prendre des décisions. C'est fait en examinant le tout. À un moment donné, il faut trancher. C'est pas le chef d'industrie qui me démentira. C'est pas le patron qui me démentira. À un moment donné, il faut décider. On ne peut pas passer sa vie.
L'entreprise, c'est pas la démocratie, mon cher André. C'est pas la démocratie.
Eh bien, écoutez,
s'il n'y a pas de chef, oui, mais... il n'y a pas d'industrie.
Oui, mais je vais vous dire, s'il n'y a pas de chef, il n'y a pas d'État. C'est ce que De Gaulle disait d'Albert Lebrun. Il se voulait chef d'État. Encore eût-il fallu qu'il y ait un État et encore eût-il fallu qu'il y ait un chef. Là, il y avait un État, mais l'État actuellement, il n'est pas dirigé et il n'y a pas de chef. Alors, je ne dis pas que l'État doit être dirigé comme une entreprise. C'est pas ça que je dis.
Non,
justement,
non,
on le voit très bien
avec
le coronavirus. Pas du tout. En revanche, il faut quelqu'un qui prenne des décisions et qui y aille. Encore une fois, l'histoire du coronavirus, mais même l'histoire des retraites. Si on va pas discuter là-dessus, si on va pas perdre de temps là-dessus. Mais il y a un vrai problème, effectivement, de direction de ce pays qui est de plus en plus posé, c'est clair. Oui, Jean-Marie.
Gérard nous appelle de Vitry au 0826 300 300.
Oui, tout à fait,
Gérard,
d'accord.
Bonjour.
Avec... Oui, bonjour, excusez-moi. Oui, je suis d'accord avec vous, le comité scientifique, c'est de la foutaise, parce que la médecine, c'est une science naturelle. Et une science naturelle, il peut y avoir des avis divergents. Et je crois que... Donc je comprends pas la logique. J'ai fait des études de géotechnique, de la géologie, et j'ai connu l'histoire de la soufrière. Et j'ai connu l'histoire qu'il y avait... Le professeur qui faisait, avait dit... Dans l'équipe, il y avait quelqu'un qui avait vu que c'était une éruption pratique et qui appartient au TAM. Mais le professeur Filla dit que tant pis, il faut évacuer les gens, le principe des précautions et des prioritaires, quoi que ça coûte. La vie des gens n'a pas de prix. Bon, je termine. Là, je voulais surtout faire un appel pour le bordel que je vois. Le bordel au niveau de l'accès à l'alimentation. Moi, j'ai plus de 70 ans. Là, je viens d'aller au Lidl. Au Lidl, on rentre comme ça. Il y a des enfants qui touchent à tout. Il y a plus d'une personne par. On y va par couple, on y va par trois. Et les distances ne sont pas respectées. Et ça fait 8 jours que j'essaye de faire l'appel pour qu'on organise, au moins dans les grandes agglomérations, qu'il y ait un accès, un accueil, l'accueil soit réglementé et que les personnes âgées, ou vous comprenez, les femmes enceintes, etc., puissent accéder aux grandes surfaces avant l'ouverture. Les autres personnes.
Je suis à Vitry.
Le Lidl, mon Lidl est à 100 mètres. Hein. J'ai quand même appris. Oui. Donc, vous voyez, en Australie, ça existe. Et c'est réservé et contrôlé avec la pièce d'identité. Hein. Et je viens d'apprendre par mon voisin, quand même, que mais lui n'était pas au courant non plus, que c'est le Carrefour, là, apparemment, ils font ça. Mais attendez, les personnes âgées ne regardent que la télé. Hein. Donc, ils vont continuer d'aller à Lidl. Excusez-moi, hein, je fais de la bonne publicité pour Lidl, je parle de ce que je rencontre. Hein. Quand on fait des files d'attente, on peut faire des files d'attente. Il y a 8 jours, je suis parti parce que j'étais entre un vapoteur et un fumeur. Je suis parti parce que j'aurais été très violent. Hein, 1 mètre, 2 mètres, et personne ne parle d'ailleurs des dangers du vapotage. Et donc c'est un appel à l'organisation. On en est tout à fait à ce que votre interview précédente. Donc voilà, j'attends que les autorités s'organisent.
Chacun son métier.
Où est le ministre du commerce? Je ne connais même pas son nom.
Non mais chacun son Loïc le floc. Loïc le floc Prigent, le mot de la fin.
Et écoutez, je pense que ce qui est dit là sur l'organisation de l'État et l'organisation tout court montre bien qu'il faut se reposer les bonnes questions. Et donc j'ai posé la question de la prison en disant il faut changer de vision des choses. Là, sur la vision de la politique de santé, il faut changer la vision. C'est-à-dire que nous avons fait des erreurs collectives sur leur matière, notre manière de concevoir la santé publique, et il faut en tirer parti le plus tôt possible. Maintenant, absolument. Savoir que l'industrie, la logistique, ça existe et que c'est fondamental pour arriver à avoir une politique intelligente.
Eh bien, merci à tous. Merci Loïc Le Floch-Prigent et merci à tous.
Et je rappelle la référence du livre de Loïc Le Floch-Prigent, Repenser la prison. C'est publié aux éditions Michalon. Merci à vous Loïc Le Floch-Prigent d'être intervenu sur Sud Radio. André Bercoff revient demain dans tous ses états, comme promis, comme chaque jour, en direct, confiné de chez lui, à midi sur Sud Radio. La journée continue aujourd'hui en compagnie de Jacques Pessis, comme chaque jour. Jacques Pessis qui aujourd'hui, pour les clés d'une vie, reçoit son invité Valérie Benaïm. Belle journée à vous sur Sud Radio et sur surtout, restez chez vous et prenez tous soin de vous.